Salut à tous et bienvenue, vous écoutez Retour vers le cinéma, votre émission de cinéma préférée. Vous êtes sur CFM Radio et aujourd'hui je suis en compagnie de Vadim.
Salut à tous les auditeurs.
Et enfin Lina. Hey, de retour. Aujourd'hui au programme, un petit jeu qui va être animé par moi-même. Mais avant ça, passons à la Minute Info.
Et cette semaine, vous pourrez retrouver au cinéma Le Mage du Kremlin. C'est un thriller qui est réalisé par Olivier Assayas avec Paul Dano, Jude Law et Alicia Vikander. Pour vous raconter un peu le film, dans les années 1990, en Russie, au moment de l'URSS, Vadim Baranov, esprit brillant et manipulateur, va gravir les échelons du pouvoir lors de l'effondrement de ce parti. D'artiste à producteur de télévision, il devient l'éminence grise d'un ancien agent du KGB promis à régner sur la Russie, Vladimir Poutine. Chargé de façonner les récits, les images et les perceptions, Baranov se retrouve au cœur d'un système qui contribue lui-même à bâtir. Mais une figure lui échappe, Xenia, femme libre et insaisissable, symbole d'une autre voie possible. 15 ans plus tard, retiré du jeu, Baranov accepte de parler, livrant un récit où vérité et manipulation se confondent et où le pouvoir se révèle comme un art de l'illusion. Nous retrouvons ensuite Primat, un film d'horreur et d'épouvante, réalisé par Jens Roberts, avec Johnny Sequoia, Jessica Lander et Victoria Wyant. Ce qui devait être un séjour paradisiaque sur une île isolée tourne rapidement au cauchemar pour un groupe d'amis. Coupé du monde, il se retrouve confronté à une menace sauvage et incontrôlable. Primat plonge dans une lutte brutale pour la survie, où la nature et l'instinct prennent le dessus, transformant les vacances en un affrontement bestial. Et nous finissons cette sélection de films avec Olivia, un film d'animation réalisé par Irène Ibora, avec Elisa Cornet, Jordi Evole, Gaspard Royer. Du jour au lendemain, la vie d'Olivia, 12 ans, bascule. Contrainte de s'adapter à une existence plus modeste, elle doit aussi prendre soin seule de son petit frère, Tim. Heureusement, la rencontre avec des voisins aussi chaleureux qu'excentriques va transformer leur quotidien en une véritable aventure. Olivia raconte comment, à hauteur d'enfant, chaque épreuve peut devenir un jeu et chaque journée un souvenir précieux. Bien évidemment, tous ces films sont à retrouver au CGR Multiplex d'Aussonne, mais aussi au CGR Le Paris.
Eh bien, merci Vadim, et on passe tout de suite au Qu'est-ce que t'as vu ? Alors Lina, cette semaine, qu'est-ce que t'as vu ?
Alors cette semaine, j'ai vu The Day of the Fight. Figurez-vous que c'est le premier film et premier court-métrage de Stanley Kubrick, réalisé en 1951. Alors, il dure 13 minutes et ça raconte l'histoire de Walter Cartier, qui est un boxeur, et on ne suit pas sa vie à proprement parler, mais plutôt vraiment la journée de son combat. Donc du réveil au moment où il combat, donc qu'il gagne ou qu'il perd, ça je donne pas l'information, mais on suit son histoire en tout cas. Stanley Kubrick, contrairement à beaucoup d'autres documentaristes, parce que là c'est un documentaire, il s'intéresse non pas à l'événement en lui-même, mais plutôt à l'attente, à toute la tension psychologique qui peut résider autour de lui et au rituel de la veille au rituel du jour du combat. Moi, je trouve qu'on y voit déjà en fait un petit peu la patte de Kubrick. Il y a la voix off qu'on retrouve chez Barry Lyndon. J'étais obligée de citer mon film préféré. Je suis un petit peu contente. Donc, il y a cette voix off qu'on retrouve aussi chez Barry Lyndon. Mais il y a aussi son intérêt déjà pour la photographie. Parce que pour rappel, Stanley Kubrick était photographe. Et là, en plus d'avoir réalisé et produit, d'ailleurs avec ses économies, ses toutes petites économies, il est aussi directeur de la photographie. Donc je dois avouer que j'ai plutôt bien aimé. Pour moi, c'est un 3 sur 10. C'est pas excellent, mais pour un premier film, je trouve ça plutôt pas mal. Et toi, Vadim, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Eh bien, moi, cette semaine, j'ai pu voir Memories of Murder. Et waouh, que dire de ce film ? Waouh, juste waouh. Bong Joon-ho m'avait déjà impressionné avec Parasite, confirmé comme grand réalisateur avec Mickey 17, mais là, on est sur un tout autre niveau. Memories of Murder, c'est un thriller coréen, aussi haletant qu'intelligent. Le film n'est pas monolithique. C'est certes un polar, captivant, mais il est construit autour d'une traque d'un serial killer avec un rythme que je trouve parfaitement maîtrisé. C'est aussi une œuvre faite de contrastes permanents qui vont lui donner, je trouve, toute cette richesse sans jamais tomber dans ce que je pourrais dire l'esbrouf ou même le surcharger. Les deux policiers sont radicalement opposés. L'enquête coréenne à l'ancienne se heurte aux méthodes modernes importées des États-Unis. La beauté calme de la campagne va contraster avec la saleté et la noirceur de la ville sous la pluie. L'humour parfois potache, hein, on peut le dire, il va cohabiter avec une certaine violence sèche, brutale. Et ce mélange des tons, ce léger décalage constant, Bang Joon-ho le développera plus tard dans The Host, où l'humour, tension, émotion, ils vont s'entrelacer, mais c'est un autre film. Surtout, ce que je peux relever de ce film, ce sont les personnages. Ce ne sont jamais de simples pions au service de l'enquête, ce sont des figures complexes, qui évoluent, se fissurent, dépassent leur archétype. Et finalement, le film ne raconte pas seulement la chasse du tueur, mais il raconte aussi que cette chasse fait aux hommes qui sont eux chargés de la mener une dimension plus profondément humaine et sociale. Alors l'histoire, elle se déroule dans les années 1980 environ, à la fin d'une époque assez mouvementée, hein, et je trouve que c'est porté par une bande originale lascinante et une mise en scène d'une très grande précision jusqu'à la dernière séquence qui est vraiment bouleversante. Memories of Murder n'apporte pas de réponse facile, il laisse des traces, et c'est précisément pour ça que c'est un grand film. Ma note, 9 sur 10.
Pas mal.
Ah oui, c'est beaucoup.
Et toi, Elodie, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Eh bien, cette semaine, j'ai vu, ou plutôt revu, Pacific Rim, réalisé par Guillermo del Toro, sorti en 2013. Le film nous plonge dans un futur où des kaiju, des monstres gigantesques, surgissent de l'océan et où l'humanité riposte avec des robots titanesques, les Jaeger, pilotés à deux. Le film suit les pilotes chargés de sauver le monde dans des combats assez spectaculaires. Alors pour moi, visuellement, ça tient toujours bien, les combats sont lisibles. L'échelle, elle est impressionnante au niveau des effets spéciaux. Je rappelle que c'est un film qui est sorti en 2013, donc je le trouve encore très immersif. Le scénario est simple et les personnages, bon, c'est assez classique. Hein, on est sur du cinéma américain. Mais le film, je trouve que le film assume totalement son concept. Avec le recul, il vieillit plutôt bien pour un film d'action qui promet des combats spectaculaires. Donc je lui mettrai une jolie note de 3,5 sur 5.
Eh bien, merci Elodie pour ton cake que t'as vu. Nous revenons dans quelques instants, mais avant ça, je vous laisse avec le morceau Sunflower de Post Malone.
Sunflower, you're the sunflower.
C'était Sunflower de Post Malone, un morceau créé pour Spider-Man Into the Spider-Verse. Fun fact, c'est devenu le premier single de Post Malone à rester plus de 60 semaines dans le Billboard Hot 100.
Eh bien, merci Vadim, et on commence tout de suite avec le sujet du jour, car comme vous le savez, dans Retour vers le cinéma, on aime parler de films, mais aussi de tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, on va jouer avec les campagnes de promotion les plus marquantes du cinéma. Parce qu'un film, ce n'est pas seulement ce qu'on voit à l'écran, c'est aussi la manière dont il va être vendu et comment il va créer l'événement, parfois même avant sa sortie. Le principe est simple. Je vous décris une campagne de promo, une installation, des acteurs, quelque chose qui a été fait en rapport avec ce film, et vous devez deviner pour quel film ça a été fait. Est-ce okay. que c'est bon pour okay. vous ?
Ça marche.
Eh bien, c'est parti. Et on commence tout de suite avec un exemple. Donc, quel film a collaboré avec Crocs, Airbnb et Burger King et a retourné Internet en 2023 ? Donc, vous avez le choix entre Mean Girl, Barbie ou Legally Blonde.
J'ai la réponse. Alors, c'est peut-être un peu de la triche, mais c'est parce qu'on en avait, je crois, parlé en cours.
Oui.
Ben voilà, c'est pour ça. Est-ce que Lina, tu penses avoir la réponse aussi ?
Est-ce que avoir la réponse, ça veut dire avoir écouté le cours ?
Donc Lina n'a pas la réponse. Selon moi, je pense que, enfin selon le cours du coup, ben, c'est Barbie.
Et oui, effectivement, Vadim, tu as raison, c'est Barbie. D'ailleurs,
oui, c'est vrai.
Lina s'en rappelle.
C'est bon, en fait, j'ai écouté.
D'ailleurs, la campagne comptait plus de 100 partenariats de marques et c'est un record dans l'histoire du cinéma.
Oui, je m'en souviens. Et du coup, tout était rose, c'est ça ?
Ouais.
Ok.
Bon, un peu normal.
Ouais, c'est vrai, je me rappelle, elle avait montré... Ouais.
Ah ouais. Est-ce que du coup, tout le monde a compris le concept ici ?
Oui, c'est bon.
Et
oui.
On peut passer à la question suivante. Quel film a fait le buzz avec un objet promotionnel devenu un mème sur les réseaux sociaux, un seau de pop-corn très particulier ? Star Wars, Dune partie 2 ou Avatar ?
Oh putain.
Bonasse. Ah wow.
C'est des vrais trucs, hein ?
Alors moi, instinctivement, j'irais dire Star Wars. Okay. Je sais pas, toi, au feeling.
Je vais pas dire Star Wars, alors que je trouve que c'est peut-être logique, mais je dirais Avatar.
Eh bien, vous avez tous les deux faux.
Ah, c'est fou, super ça.
C'était Dune partie 2. D'ailleurs, le buzz a commencé avant la sortie du film, uniquement grâce à cet objet promotionnel. Quel film a organisé une immense chasse au trésor avec énigmes et faux avis de recherche sur le Joker ? Les Avengers, The Dark Knight ou Joker ?
Déjà, t'enlèves les Avengers, parce que c'est pas le même univers, c'est DC oui. Comics.
Moi, j'irais Joker.
Joker.
Ça m'étonnerait pas. Ils sont un peu déjantés, en vrai.
Je vois ce que tu veux dire, bah, c'est Todd Phillips, sauf que, en vrai de vrai, les gars, on recherche le Joker. Donc, c'est pas forcément le personnage principal, je dirais que c'est un second personnage. J'irais peut-être Dark Knight.
Peut-être, ouais.
Voilà.
Est-ce que vous validez vos réponses ?
Est-ce que ça te va ?
Oui.
Allez, ça marche.
Eh bien, la réponse était The Dark Knight. Cette campagne, elle est considérée comme fondatrice du marketing parce que ça fait parler, mais un truc de fou sur les réseaux sociaux. Quel film a volontairement gardé son intrigue secrète avec une bande-annonce mystérieuse et presque aucune info sur le film à sa sortie ? Blair Witch, Cloverfield ou Paranormal Activity ? Pour vous donner un peu plus de contexte, c'est un film où la bande-annonce est sortie sans aucun contexte et avec une scène qui n'avait rien à voir. Eh bien, Vadim, quelle est ta réponse ?
Écoute, ma réponse sera neutre, parce que je n'ai vraiment aucune idée.
Moi, je dis Blair Witch, parce que c'est le seul que je connais. J'ai entendu parler de Paranormal Activity, mais je ne suis pas assez renseignée là-dessus. Du coup, bah, encore une fois, j'y vais au feeling, dans tous les cas.
Eh bien, la réponse était Cloverfield. À sa sortie, presque aucun spectateur ne savait même pas de quoi parler le film. Et du coup, le film s'est fait connaître comme ça.
Ok.
C'est assez intéressant parce que du coup, je te rejoins en 2026. Il y a un film qui va sortir qui s'appelle Digger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Ouais.
Avec Tom Cruise. Et du coup, bah, les gars, on ne sait pas du tout de quoi ça va parler. On sait juste un mec avec une pelle.
Voilà.
Et voilà.
Digger.
Et ça a l'air super parce que le réalisateur, les gars, c'est un réalisateur de malade. Alejandro Iñárritu.
Iñárritu.
Pas mal.
Iñárritu.
Pour la sortie de quel film, un faux gorille géant avait été installé sur les Champs-Élysées ? Godzilla, King Kong ou Planet of the Apes ?
Non, elle est là, c'est King Kong, c'est assez simple.
King Kong.
Et oui, du coup, le King Kong était posé en bas des Champs-Élysées et il y a énormément de gens qui sont venus le voir de plein d'endroits différents. On passe à la question suivante. Quel film d'horreur a fait intervenir des acteurs grimés dans les événements publics pour promouvoir sa sortie ? Scream, Smile ou The Purge ?
Alors, je connais pas le troisième film. Du coup, je vais me rapatrier plutôt sur les deuxièmes. Je vais dire Scream. Qu'est-ce que t'en penses, Tina ?
J'en pense pas. Non, plus sincèrement, la culture du film d'horreur, je suis une merde, mais colossale.
Eh bien, la réponse, c'était Smile.
Oh, c'est le seul que j'ai vu, putain.
Il y a des acteurs du coup, qui sont apparus dans les rues, dans des festivals et dans des événements et qui reproduisaient du coup l'expression faciale de l'entité dans Smile. Et du coup, ça a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Pour la promo de quel film d'horreur, des acteurs déguisés en prêtres accueillaient les spectateurs à l'entrée des cinémas ? C'est
quand
très récent.
Film d'horreur, là ?
C'est bon, je sais.
L'Exorciste, The Conjuring ou The Nun ?
Déjà, tu as dit c'est très récent et tu nous sors l'Exorciste et le titre.
Mais c'est pour vous aider parce que depuis tout à l'heure, c'est compliqué.
Je vois. Bon, moi, c'est bon, j'ai ma réponse. Lina, est-ce que tu as la tienne ?
The Nun.
C'était Conjuring.
Ah, Conjuring, ouais. Ouais. C'est voilà. Ce que j'allais dire, ouais, Conjuring qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'avais oublié.
Ah, il jetait de l'eau sur le visage.
La mise en scène, elle était là pour renforcer l'idée que le film était basé sur des éléments réels et beaucoup y ont cru. Quelle série a enfermé ses acteurs dans un cube de verre au milieu d'une grande gare ?
Je l'ai vu il y a, je sais pas, deux jours. J'ai vu ça, ouais.
Normal, c'est en cours, Alina.
Vous avez le choix entre Black Mirror, Severance ou Westworld.
Severance, ouais.
Ouais. Pour nos auditeurs, on l'a travaillé en cours et j'essaie de leur donner un peu de matière parce que là, c'est compliqué aujourd'hui.
J'ai failli dire Black Mirror, d'ailleurs, je confesse.
Et on finit avec le dernier. Quel film avec Timothée Chalamet a lancé une promo volontairement ironique, se moquant du marketing lui-même ? Dune, Marty Suprême ou Call Me By Your Name ?
Alors je dirais Marty Suprême, on va dire ça, hein, vu que c'est d'actualité.
Est-ce que vous validez la réponse ?
Ouais.
Et oui, c'est Marty Suprême.
Parce que
la campagne et l'acteur Timothée Chalamet a joué à fond sur l'autodérision et la culture d'Internet et surtout sur la définition elle-même du marketing. Il considérait que les acteurs avaient un rôle très important dans le marketing pour les films dans lesquels ils jouent.
Ouais. Bah, c'est leur métier aussi en tant qu'acteur.
C'est ça. Eh bien, ça a été compliqué aujourd'hui.
c'est la fatigue.
Eh oui. En tout cas... Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Retour vers le cinéma. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et les podcasts sont en ligne sur Retour vers le cinéma. Vous avez juste à cliquer sur le lien. C'est le premier quand vous tapez ça sur la recherche.
Et on se retrouve le mercredi à 19h et le samedi à 14h.
Ciao, ciao.